je t'offre ce plaid, je vais même te l'installer.
C'est gentil, merci.
On peut même le déplier.
Merci, Mia. J'aurais un peu plus chaud.
Et si jamais t'as un petit frisson,
ouais.
N'hésite pas à te glisser sous les draps.
Ça marche, je te remercie.
Tu as bien dormi cette nuit ?
Non, pas trop en ce moment. Parce que j'ai déménagé récemment.
Ah.
Et il me faut un temps d'adaptation.
Tu as emménagé dans un espace où tu es seul ?
Non. Non, non, je suis avec ma copine.
Vous partagez donc le lit ?
Ouais. Ce qui m'aide pas à bien dormir, parce qu'elle bouge.
Et du coup, comment tu fais pour créer ton espace dans le lit ?
Bah là, on a pris un lit très grand. Et moi, je bouge pas.
Tu dors dans quelle position ?
Ça dépend. Mais ce que je décide au début se maintient jusqu'à la fin quasiment. Pas tous les soirs, mais presque.
Et tu te couches à quelle heure ?
Bah ça dépend. Si je commence à 7h du matin, je me couche au plus tard à 22h30. Et puis, si jamais je n'ai pas d'heure le lendemain ou que c'est plus tard, alors là, je peux me coucher vers minuit, 1h, ça dépend. Pas beaucoup plus tard. Je préfère me coucher tôt et me lever au milieu de la nuit pour faire des trucs que me coucher tard.
Je mets un réveil, excuse-moi.
Va. Qu'un souci.
Oubliez ce petit protocole. 50 minutes.
Ouais.
Et le matin, tu te réveilles tous les jours à 7h ?
Non, 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 ça dépend. Je travaille en fait à 7h. Enfin, je commence à 7h, donc je me lève à 6h et quelques. Et sinon, non, je me lève en moyenne. Oh, pas très tard, 8h maximum, je pense. 9h au plus tard si je veux traîner un peu. Ouais.
Est-ce que tu as des rituels le matin au réveil ?
J'en ai un, mais j'essaye un peu de m'en départir parce que je le trouve pas fun, c'est regarder les infos. Enfin, lire les journaux, quoi. Sur mon téléphone en général.
Tu es abonné ?
Oui, j'ai des trucs, enfin, je les ai craqués, mais oui, c'est équivalent. Quoi. Et puis voilà, je lis un peu, hein, je brasse un peu large, je regarde tout ce qui est information AFP, choses un peu classiques, un peu voilà, journal télé, puis après je vais sur les journaux indépendants, des lignes éditoriales beaucoup plus à gauche, et après je vais sur les lignes éditoriales plus à droite. Et je fais un parcours comme ça le matin de plein d'articles. En fait, j'ai des fils d'actualité. Bon, j'ai pas de réseaux sociaux, mais j'ai ces fils d'actualité-là, des infos. Ceux de Windows, c'est vraiment des infos normales. J'utilise après une application où il y a vraiment que les journaux indépendants. Et le dernier, c'est un fil d'actualité Opéra où en fait j'ai vu tellement d'articles de droite que du coup j'ai que des trucs de droite. Donc j'ai Marianne, j'ai tout, j'ai Valeurs Actuelles, j'ai la totale. Mais j'adore, enfin, ça m'intrigue.
Bien sûr.
Voilà.
Et ça dure combien de temps ce rituel ?
Ça dépend. Ça peut durer une bonne demi-heure si jamais je travaille pas. Et en général, 5 à 10 minutes si je travaille.
Ça va vite.
Ouais. Ouais, j'ai pas le time. Et puis j'aime pas trop m'y perdre au bout d'un moment. Quand même. C'est un peu lourd à porter quand même de lire tout ça. Mais là, d'ailleurs, j'essaye de m'en départir un peu. J'essaye de ralentir un peu la lecture de ces choses-là parce que.
Et ce rituel-là, il se passe dans le lit ou ailleurs ?
Non, dans le lit. Ouais.
Est-ce que tu peux me parler du rythme auquel tu te lèves le matin ?
Bah alors, oui. Bah, très vite. Enfin, je suis très réveillé. Dès que je me réveille avec la lumière. Au début, j'avais un vibreur. Et puis, petit à petit, je l'ai évacué. Maintenant, j'ai juste l'écran de mon téléphone qui s'allume. Je me réveille, ça me prend 1 minute 30, 2 minutes, je prends mon téléphone portable, je regarde l'heure qu'il est, je check un peu les infos, puis je me lève, c'est pas très compliqué pour moi. Je dis ça parce que par contraste avec ma copine, mais et je sais que pour certains c'est beaucoup plus compliqué, mais moi du coup je me lève, voilà,
okay.
Faut ça va quoi.
Il te faut combien d'heures de sommeil pour être vraiment en forme?
Bah, un peu avant 8, maintenant un peu moins, je pense, au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi, mais là je sens qu'un peu moins, quoi. Après, j'aime bien faire des siestes, par contre.
Tu fais des siestes sur ton lit ou ailleurs?
Sur mon lit. Sur mon
Et
lit.
tu te glisses sous les draps?
Je me glisse sous les draps.
Habillé?
Bah non, je me déshabille avant, quoi. Je mets même un pyjama ou quoi, un truc comme ça. Mais je garde un peu. Des fois, ça m'arrive de garder ma chemise. Parce que je sais que je vais me rhabiller après. Non.
Et elle dure combien de temps cette sieste?
Ça dépend de mon niveau de fatigue. Je suis très carré.
Et est-ce que tu mets un réveil?
C'est pareil, en fait, oui, systématiquement. Quand je suis très fatigué, je prends une grande sieste, donc je dors 1h30. Et mon cerveau me réveille au bout d'une heure et demie, ça n'a jamais changé. Et si jamais je suis pas très fatigué, je mets un réveil au bout de 20 minutes, 23 minutes pour être précis. Parce que je veux pas m'endormir réellement et ça me permet de faire une micro-sieste de 20 minutes. Je compte 3 minutes pour essayer de me mettre à l'aise.
De la même manière que tu as ce rituel matinal, est-ce que tu as des rituels de coucher?
Ouais. Oui, je lis quasiment tous les soirs. Après, je regarde aussi un peu les infos de temps en temps, mais moins. Vraiment vite fait comme ça, je fais un tour des fois qu'il y a un truc qui m'intéresse. Ouais, c'est tout, c'est vraiment c'est le rituel quoi. Bon, je lis. Je calfeutre mes fenêtres aussi, parce que j'aime pas la lumière. Enfin, du coup, comme j'ai celle de mon téléphone pour me réveiller, j'aime pas que la lumière du jour me réveille, mais ouais, c'est tout.
Ils sont en quelle matière les rideaux?
Je sais pas du tout, ils sont pas à moi. Donc je sais pas, je dirais qu'ils sont en synthétique un peu opaque quoi. Calfeutre, enfin pas calfeutre,
occultant.
Occultant, merci.
Est-ce que tu peux me décrire ce qu'il y a autour de ton lit?
Alors en ce moment beaucoup de désordre et de bordel parce qu'on déménage, donc on emménage. De manière générale, il y a toujours des bouquins, un chargeur de téléphone. Ma liseuse, sur laquelle je lis. Et puis là, en ce moment, il y a des cartons, des vêtements aussi. Et voilà, c'est sensiblement ce qu'il y a. Ouais, rien d'autre.
Est-ce que tu aimes être dans ton lit?
Oui et non. J'aime pas trop y traîner. J'aime pas trop y traîner, j'aime bien y être. Je suis très content quand j'y suis, mais j'aime pas trop y traîner quoi. Il y a un temps pour le lit et il y a un temps pour que j'en sorte quoi.
Est-ce que ça t'arrive de te poser, de reposer ton corps, ton esprit sur le lit et de ne rien faire?
En période de grand stress, ouais. Alors je fais pas rien, parce que je mets des écouteurs et j'écoute l'eau, souvent la pluie ou un bruit blanc, et je me détends comme ça. Enfin, j'essaye de partir un peu quoi, dans ma tête.
Forme de méditation.
Ouais. Ouais. Ça peut durer, je sais pas, une heure et demie. Je reste comme ça, mais c'est le seul moment où vraiment je squatte mon lit.
Pour le moment. Tu ne te sens pas encore en sécurité dans ce nouveau lit?
Moi, ouais, j'irai pas jusque-là. En vrai, je me sens pas hyper à l'aise de dormir. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs qui m'empêchent de dormir. Parce qu'il faut que je m'habitue au bruit, aux choses comme ça. Et
au voisinage?
Voilà, principalement. Mais c'est pas tant le lit qui me dérange. Et puis, même mon ancien lit, j'y restais pas non plus. Non, ça va, il me dérange pas. Lui, il me plaît même plus que mon ancien lit, pour être honnête. Mais ouais.
Est-ce que lorsque tu étais enfant, tu étais invité dans le lit de tes parents ou de personnes très proches?
Je ne saurais pas te répondre, je m'en souviens pas trop, je pense pas. J'étais très vite indépendant, alors du coup je crois pas. Et en plus, comme il y a, enfin, c'était le lit de ma mère du coup, je pense pas. Et puis ma mère s'est passé beaucoup de lits. Du coup, elle dort souvent sur le canapé. encore aujourd'hui. Donc, du coup, non, je n'ai pas de souvenir de ça. En tout cas, si c'est arrivé, j'ai pas un grand souvenir de ça, quoi. C'est pas un rituel qui me paraît hyper évident.
Est-ce que tu partageais ta chambre avec un autre membre de ta famille?
Ouais, ma petite sœur. Petite sœur, et puis après mon petit frère. Et ensuite, j'étais tout seul. À quel âge j'étais seul? Ah si, 14 ans, je dirais, 15 ans, truc comme ça, 15 ans. Ouais.
Et tu étais heureux d'avoir une chambre seule ou ça t'a perturbé?
Non, non, j'étais hyper heureux, je crois, d'avoir une chambre seule. Après, j'ai toujours été hyper attentif à tout ce qui se passe dans la maison. Ma mère elle faisait la même chose. Donc, du coup, voilà, mais j'ai jamais été déconnecté de mes frères et sœurs totalement. Mais j'étais très heureux d'avoir mon indépendance.
De trouver une certaine forme d'intimité, je suppose.
Ouais, vraiment.
Ou est-ce que c'est... Tu arrives à partager de l'intimité avec d'autres membres de ta famille?
De l'intimité avec d'autres membres de ma famille, c'est une question qui a un sens large, alors du coup, je saurais pas dire, mais nous, on est assez pudiques, donc je sais pas, toute forme d'intimité, qu'elle soit émotionnelle
Est-ce que,
ou autre.
par exemple, tu te déshabilles? Est-ce que tu es nu sous tes draps pour dormir? Est-ce que tu mets un pyjama? Est-ce que tu portes quelque chose?
Non, je porte quelque chose. Je fais un pyjama. Ouais, je mets toujours un pyjama.
Il est en quelle matière?
Il est. Je pourrais pas dire, c'est très doux, mais c'est un pyjama qui vient du Maroc. Je mets toujours un débardeur et un pyjama comme ça, un pantalon quoi, surtout qui est tout léger. Je saurais pas dire en quelle matière il est. Aucune idée.
Et de quelle couleur?
Noir, avec des. Comment on appelle ça? Des motifs blancs un peu orientaux sur la base.
Est-ce que tu trouves ça utile de dormir?
Ouais. Je trouve ça hyper important. J'ai jamais compris les gens qui considéraient que c'était une perte de temps. Je n'arrive pas. Je comprends qu'on puisse penser ça, mais pour moi, c'est impossible. Je trouve ça primordial.
Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec une personne racisée, issue du même groupe racial que le tien? Est-ce que tu l'avais déjà conscientisé avant que je te pose la question?
Ouais, plusieurs fois.
Qu'est-ce que ça t'évoque?
Ça m'a posé plein de questions, j'y ai réfléchi blindé en me disant, en me posant plein de questions, mais après, bah, je me suis interrogé par rapport au code racisé dans mon pays, donc c'est-à-dire du coup la plupart des personnes racisées qui sont issues de mon ethnie, de mes origines, viennent souvent de cités en France, pas tous, mais beaucoup. Et donc du coup, les codes que j'avais en moi-même, c'était les codes que mes tantes et mes cousines m'avaient transmises. Et du coup, je les assimilais fort à la famille. Donc en fait, j'arrivais pas à... Je pense que j'ai pas réussi à sexualiser en soi le corps d'une femme qui soit marocaine, du coup, parce que je suis marocain, totalement. Enfin, alors il faut. Enfin, et du coup, voilà, tu vois. Ou alors, quand c'est arrivé, c'était des gens qui étaient vraiment d'une autre personne, enfin, qui n'avaient pas grandi en cité du tout. Et alors du coup là j'étais juste pas à l'aise peut-être par exemple, enfin c'était des trucs comme ça. Mais oui je me suis posé plein d'autres questions sur cette chose-là.
Tu as grandi dans quel environnement social?
Moi?
Oui.
Modeste, enfin je sais pas, enfin, on était sous le seuil de pauvreté donc j'étais en cité quoi. J'étais en HLM, je sais pas très bien si on dit modeste, pauvre.
Bon, il se peut que je te pose des questions que je t'avais déjà posées dans le privé auparavant.
Ah oui, pas de souci. Il n'y a aucun problème.
Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels avec des personnes racisées qui ne sont pas issues de ton groupe racial?
Ouais.
Plutôt des Noirs, des Asiatiques, des Latinas. Oui. Plusieurs fois?
Ouais, enfin, j'ai même des relations longues.
Oui.
Ouais.
Et vous parliez des processus de racisation au sein de vos relations?
Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que ça a agité chez toi?
C'était plutôt agréable. Enfin, non, ça dépend des cas. Enfin, je pense qu'il y a des cas où j'étais moi-même. On n'a pas abordé cette question-là très souvent. Là, en ce moment, je fréquente une fille qui est quarteronne asiatique, chinoise, et avec laquelle on partage beaucoup de choses par rapport à cette question-là. Du coup, là, en ce moment, je peux te dire ce que ça me fait là maintenant. C'est plutôt agréable. Et je me sens en confiance dans ma relation, dans mon couple, quoi. Enfin, je me sens du coup pas en porte-à-faux. C'est pas un sujet de conflit, quoi. C'est un sujet de débat. Donc voilà, je sais pas si ça répond.
Ah oui, il n'y a pas de toute façon
Non,
de.
mais je sais pas si
On ne
ça.
coche pas des cases.
Non, non, j'imagine.
Est-ce que justement, lorsque tu relationnes avec des personnes blanches, cette question-là, elle fait débat et plutôt les sources de conflits, d'incompréhension, comment elle prend sa place au sein de ces relations?
C'est pareil, ça dépend, j'ai envie de dire, mais ma première relation longue, enfin, j'étais au lycée et du coup mon ex, donc ma copine de l'époque, et ses parents étaient du FN, enfin, ils avaient genre la carte du parti, c'était un truc hyper reconnu chez eux, enfin, c'était presque une valeur transmise. Donc c'était drôle parce que. Je pense que c'est même ça qui a fait que j'ai essayé de sortir avec cette fille en soi. Parce que j'ai toujours été très fort dans le débat et dans l'échange. Et j'ai jamais trouvé problématique de parler avec des gens qui n'avaient pas du tout le même avis que moi, bien au contraire. Même si je débattrais, je débat toujours jusqu'à ce que j'arrive à percer une petite chose, quoi. Et à Nice, d'où j'ai grandi, c'est hyper répandu d'être d'extrême droite. Les plus modérés sont de droite, quoi. Donc du coup là, j'ai envie de dire, ça faisait vraiment débat et c'était chouette, mais en tout cas à la fin ça s'est bien passé. Puis finalement, le fait qu'on se sépare a sans doute dû recristalliser des choses qu'on avait décristallisées en débattant. Et puis plus tard, après, je pense que c'est la question s'est posée différemment en fait. Mais même moi, j'arrivais pas à identifier que c'était vraiment ça le sujet, parce que c'était pas un unique sujet, c'était pas que la question déracisée, c'est la question sociale aussi qu'elle implique. Et donc plus tard, le débat s'est construit très fort sur ces questions-là, des questions de divergence sociale, de divergence de perception du monde, parce qu'on n'était pas né au même endroit, où on n'avait pas grandi de la même façon. Parce que voilà, après moi j'ai fréquenté une fille qui notamment était à Louis-le-Grand, qui est un des meilleurs lycées de France. Et donc après, quand on est sorti, j'ai côtoyé tellement de gens de l'ENA ou de Normale Sup, et c'était hyper. Du coup là, ça crée du conflit parce que je m'entendais pas forcément avec les gens, voire les questions raciales, on les traitait pas du tout de la même manière, on les pensait même pas de la même façon. Donc du coup là, ça crée beaucoup de débats et de remous en fait. En fait, ça faisait que moi, je me sentais même mal à l'aise parfois dans certains groupes, et donc du coup, j'en devenais. Désagréable sans doute, et donc ça se répercutait sur mon couple après dans le privé. Voilà, du coup ça faisait d'autres choses, quoi. Je sais même pas, c'est pas le débat en soi-même qui avait un impact, mais c'était les tensions qui sous-jacentes à ce débat qui créaient des trucs intimes, quoi, et personnels. Donc voilà, mais c'est plus arrivé depuis un moment, mais ça arrivait.
Est-ce que tu peux me parler du rapport que tu entretiens avec ta peau?
Bon, je l'aime bien. J'aime bien ma peau. Il y a deux choses. Il y a la peau physique et ce qu'elle dégage. Physiquement, je m'aime bien. J'ai jamais eu de problème par rapport à mes problèmes de peau, par exemple, quoi. Enfin, du coup, de ce côté-là, je m'en fous. Mais après, je me suis toujours trouvé très clair de peau par rapport aux membres de ma famille. En fait, par rapport au monde de ma famille étendue. Mais enfin, je sais pas, c'est plus compliqué que ça, mais moi, du coup, je me suis toujours trouvé pas suffisamment foncé pour ressembler à un arabe. Et donc, du coup, ça m'a posé quelques problèmes parce que par rapport à mon prénom, notamment, comme je m'appelle Jonathan, du coup, dans les premiers temps de ma vie, du coup, à l'école et tout ça, il y avait très peu de signes qui pouvaient raconter que j'étais un arabe en soi. Parce que je m'appelle Jonathan et Kibani comme nom de famille, et donc en fait, bah, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a rien qui renvoie en soi tout de suite, quoi. Et donc, le fait que j'ai une peau plus claire me posait des problèmes, puisque je m'intégrais pas tellement dans un milieu qui était plus blanc, où des fois, justement, la question raciale pouvait être conflictuelle, et où moi, j'étais positionné très clairement bah, du côté des personnes racisées, parce que bah, c'était normal pour moi, et que les enfants, souvent, avaient les paroles de leurs parents, qui étaient souvent problématique, pas toujours, mais souvent. Et donc, du coup, bah, je me battais avec eux. Puis, en fait, après, j'étais pas reconnu non plus par les Arabes, parce que bah, je ressemblais pas à un Arabe. Alors, du coup, j'étais un traître, parce que je m'appelais Jonathan. Et donc, le fait de pas avoir une peau qui était. Enfin, de pas avoir un physique, un visage, parce que ça s'étend à ça, du coup. De pas avoir une peau, quoi, qui soit hyper foncée, ou plus foncée, tout simplement. À part quand il fait grand soleil. Et ben du coup ça me posait des problèmes quoi. Et encore aujourd'hui ça peut parfois m'interroger et je me renvoie cette image de moi-même parfois, de ne pas être assez foncé, mais moins souvent. Et puis des fois je me fais engueuler par mes amis, par exemple sur mon projet où il n'y avait que des personnes racisées, et des fois ils me disent mais tu ressembles à un arabe, arrête de me faire chier. Enfin, il n'y a pas de raison que tu t'inquiètes de ça ou quoi.
Ah, tu
Dans ce
penses que
sens-là,
ce
oui.
sont des personnes racisées qui te disent ça.
Oui, voilà, c'est.
Mais c'est parce que là, tu fais le distinguo entre être perçu par des personnes, qu'elles soient racisées ou des personnes blanches. Voilà, tu es perçu différemment selon leur catégorie raciale. Mais toi, ta perception, c'est, j'ai la sensation que tu as souvent été confrontée à ce white passing finalement quand tu étais enfant. Et aujourd'hui, moins.
Oui, moi.
C'est
Moi.
ça.
Bah, déjà, je
Pourtant, ce n'était
revendique
pas que ta
plus.
peau a foncé
Non. Non, non.
entre ta naissance et aujourd'hui.
Non, mais je pense que. Mais c'est aussi des choses que tu portes, quoi, je pense. Tout simplement. Et que. Mais. Non, mais je pense que mais ça peut m'arriver encore un peu. Hein. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Enfin, ça m'arrive en fait. Mais je pense que c'est aussi moi qui suis placé à un endroit dans mon développement qui fait que je peux justement faire du white passing en fait. Parce que bah, ma façon de me comporter, j'ai les codes. J'ai deux personnalités en moi, je le sais, ces deux identités. Et donc, du coup, très souvent, enfin, ça m'est arrivé à Nice par exemple un jour. Je discutais avec un gars sur un balcon pendant une soirée, et puis le gars m'a invité à venir dans une réunion du FN, enfin, mais un peu comme ça, enfin, parce que j'étais sympa et quoi, ou j'en sais rien. Et puis il est parti très très loin dans cet échange, parce que ça allait jusqu'à oui, parce qu'on fait des ratonnades, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Et puis bon, bah, à la fin de la soirée, il a appris que j'étais marocain de ma bouche d'ailleurs. Et en fait, je pense que. Enfin, du coup, le temps de l'échange, j'ai essayé de transformer cette personne-là par l'échange. Parce que ça, sur le coup, je pense que toute mon enfance, j'en ai beaucoup ri de ça. Ça me faisait rire. Maintenant, un peu moins, ça me fait un peu moins marrer, évidemment. Mais je pense que dans mon développement, je suis dans les deux. Enfin, j'ai ce truc-là en moi, comme ça, qui cohabite. Et j'aime bien. Enfin, c'est pas que j'aime bien, ça m'est utile, en fait. Je pense.
Tu parles de blanchité, comment tu nommes ces deux identités? Parce que tu disais plusieurs personnalités et deux identités.
Ouais. Bah, le mot personnalité est peut-être mal choisi parce que c'est plus profond que ça. J'ai une personnalité et plus deux identités, je dirais. En fait, enfin, moi, mon père, il a tenu à ce que je m'appelle Jonathan pour que je puisse m'intégrer dans la société française, en soi. Ce qui était déjà une pratique qui n'était plus trop utilisée au moment où je suis né. Et mon grand-père n'a pas tenu à ce que je sois baptisé. On ne fait pas de baptême chez les musulmans, mais on tue un mouton, on fait une fête. Et il n'a pas voulu tuer un mouton pour mon prénom. Il a voulu tuer un mouton pour mon autre prénom, Monsef. Et donc du coup, bah, du coup, finalement, ma mère a insisté, et puis il a tué un mouton pour les deux. Donc voilà, du coup, j'ai eu deux moutons. Donc je pense que dans mon développement, c'est présent, c'est ça que je veux dire par là, deux identités en moi-même, parce qu'en plus chez moi, on m'appelle Monsef, personne ne m'appelle Jonathan. Enfin, aucun membre de ma famille ne m'a jamais appelé Jonathan, sauf devant témoin, donc dans la ville, quoi, mais pas en famille. Donc voilà, deux identités.
Est-ce que tu as plusieurs voix aussi?
Ouais. Ouais.
Tu peux m'en parler un peu?
Bah, en fait, moi j'ai grandi en cité, donc c'est encore une troisième chose, parce que même si on a tendance à les confondre en France, c'est quand même trois trucs différents, quoi. En cité, on parle pas comme je parle en ville, quoi. Enfin, on parle pas comme des universitaires. On peut le faire, mais on le fait pas spontanément. Et donc du coup, bah, quand je parle en famille ou quand je parle en cité, j'ai pas du tout. Enfin, j'ai un timbre de voix qui est différent. J'ai une articulation qui est pas la même. Quand je vais me mettre à parler en cours, tout simplement à l'école, je vais pas utiliser. Enfin, il y a même. Enfin, c'est même en termes de vocabulaire, il y a des mots arabes que j'utilise spontanément dans le quartier ou avec mes amis que j'utilise pas à la ville en fait en soi et voilà et donc et puis
Pourquoi tu ne veux pas les utiliser à la vie?
c'est pas que je veux pas c'est que j'ai été éduqué comme ça donc c'est en moi en fait c'est hyper ancré c'est même très difficile mais je pense qu'aujourd'hui justement, je crois que j'essaie de réconcilier deux parts de moi qui ne font qu'une au fond. Mais c'est loin d'être évident en fait, parce que bah, c'est plein de mécanismes qui sont très 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 vieux et très très profonds. Enfin, c'est aussi bah, propre à mon propre développement entre mon père et ma mère. J'ai pas grandi, j'ai pas beaucoup grandi avec mon père, voire pas du tout. Mais lui était très. Enfin, du coup, c'est une longue histoire, mais c'est compliqué. Mais pour faire vite, lui, il est venu en France pour faire des études, ce qui n'était pas le cas de ma mère. Ma mère, elle est arrivée avec mon grand-père qui voulait rien faire, il voulait juste travailler. Et on l'a fait venir pour qu'il fasse la reconstruction, qu'il travaille. Mon grand-père est venu avec sa culture. Mon père est venu pour l'abandonner, puisqu'il est venu pour s'intégrer. Donc, c'est pas. Je t'avais prévenu, tu le sais très bien. Mais c'est pas la même mécanique, quoi. C'est pas la même mécanique. Donc du coup, en moi-même, j'ai ces deux mécaniques-là, en fait. Donc voilà, je pense qu'après, ben, il faut que j'essaie. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire là, c'est de les réconcilier parce que bah parfois il peut y avoir un côté qui a des fragilités et c'est l'autre qui a la force. Un truc comme ça.
Est-ce que tu peux me parler du timbre de ta voix?
Ouais. Je l'entends pas souvent, mais ouais, je peux essayer. Bah, est-ce que. Qu'est-ce que. Enfin.
C'est parce qu'en fait, on a parlé de troisième voie tout de suite,
Ouais.
parce qu'on est parti des deux identités.
Ouais.
Puis ensuite, tu as parlé de la cité,
Ouais.
qui semblait être comme l'expérience d'une autre voie.
Ouais.
Et plutôt, on a parlé du langage auquel tu n'avais pas recours en ville. Et donc, je me demande, est-ce que tu as d'autres timbres de voix pour la ville, pour pour les situations amoureuses, pour les situations professionnelles. J'ai comme l'impression qu'il y a chaque bulle comme ça, pourrait avoir sa voix.
Ouais, c'est que, ça, je pense.
Est-ce que tu peux me raconter un peu ça, comment ça se formalise
Bah, ça se formalise pas, je pense, c'est instinctif. Ouais, je suis comme ça. Enfin, je sais pas si tout le monde est comme ça ou pas. Peut-être que oui, mais souvent je me suis posé la question. Ouais, je pense que j'ai un timbre de voix différent. Pas beaucoup, mais j'ai une voix plus nasillarde quand je suis à l'école, je pense. Et un peu plus grave quand je suis au quartier. Et souvent, je me suis posé la question de savoir quelle était ma voix, enfin quel était mon vrai timbre en fait. Donc, je pense que je l'attribue fort à mes amis ou à mes relations amoureuses. Et là, je dirais que enfin, je ne saurais pas dire exactement à quoi ça, comment ça s'écoute, quoi. Mais je dirais qu'elle est plus posée, tout simplement, je pense. Et ça, enfin, je conscientise pas du tout ça. Enfin, je l'ai réfléchi, je me suis posé la question. Tiens, je m'en suis rendu compte et puis je me suis demandé si j'étais menteur quelque part à un moment. Puis je me suis rendu compte que pas. Enfin, c'est pas du tout menteur, c'est juste. Bah, ouais, je pense que c'est même une défense naturelle face à une tension qu'il y a en face, quoi. Du coup, tu t'adaptes. Dans le quartier, tu t'adaptes à la violence parce que bah, si je me mets à parler gentiment. Au quartier, ça peut mal se mettre, quoi. Mais à l'école, si je me mets à parler comme je parle au quartier, du coup, c'est là où ça peut mal se mettre. Donc, du coup, bah, tu es obligé d'adapter ta voix, je pense, pour être perçu le mieux possible par ton environnement quand.
Un déploiement de stratégie hyper raffinée.
Bah, je sais pas, mais. Ouais.
Enfin, ça ne m'est pas du tout étranger, hein,
Non, non, je comprends.
Si, si, mais c'est important de l'entendre, quoi, c'est du travail, quoi.
Oui, c'est sûr. Bah oui, clairement. Bah encore aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous il n'y a pas très longtemps bah, dans mon école. Et c'était hyper difficile pour moi parce que j'avais envie de m'affirmer très fort face à un professeur. Et de retrouver. Ce qui fait de moi quand je suis à l'aise en soi et que je parle de mon travail ou de mes problématiques ou des choses que je veux traiter, de comment je veux les traiter, de pourquoi je les traite comme ça. Et en fait, c'est très dur pour moi de le faire parce que bah, on m'a tellement fort inculqué le fait qu'un professeur, c'est un pouvoir, c'est une chose devant laquelle il faut que je fasse très attention, que en fait, c'est hyper difficile pour moi de dire, de redevenir moi-même totalement. Parce que voilà, enfin, quand j'étais petit, ma mère me mettait fort en garde. Je sais que tous mes cousins, c'est pareil, toute ma famille, c'est pareil. Fort en garde face au pouvoir de l'école, quoi. Donc, ouais, dans tous les cas, oui, je pense que.
Ça laisse des traces.
Ouais, d'office. Non, je vais te prendre un mouchoir par contre.
Ok, j'ai une boîte juste derrière.
Ah, parfait. Hyper prévu. Je te remercie.
Si, je peux la prendre.
Ouais, je te remercie.
J'ai une question.
Ok.
Quand tu déprimes, est-ce que tu restes au lit?
Non.
Qu'est-ce que tu fais?
Je fais des trucs. Enfin, je déprime pas. Enfin, j'aime pas ça. Ça m'agace.
Ça n'existe pas.
Enfin, si, ça peut. Je peux avoir des coups de mou, mais je suis hyper proactif. Je déteste. M'arrêter. Souvent, je me responsabilise. En première étape, puis en deuxième étape, du coup, je m'active, quoi. Si je déprime ou s'il s'est passé quelque chose qui m'a rendu triste, Bah, je me rends un peu, je me dis ok, bah, peut-être que moi j'avais ma part à cet endroit-là, l'autre à cet autre endroit, ce qui appartient à l'autre, je ne peux pas avoir d'impact dessus, donc, du coup bah, je l'abandonne, me reste moi ce que je peux faire, bah, j'essaie de voir un peu ce qui va devenir, quoi. Mes plus gros moments de déprime, c'est vraiment les ruptures et je mets un temps à m'en remettre, puis ça va, voilà, ça peut être plus ou moins long, j'ai besoin d'écrire beaucoup, voilà, de choses comme ça, mais c'est vraiment les plus gros moments, mais après.
Pas nécessairement de rester au lit.
Non. Non, vraiment
Il t'arrive d'écrire ailleurs, enfin, du coup, tu écris où? Parce
pas.
que moi, j'écris dans mon lit, pardon. Et donc, du coup, je voudrais savoir où est-ce que tu écris.
J'écris. Alors, avant, j'allais dans les cafés quand ça existait encore. Et donc, j'écrivais là, ça me plaisait bien. Sinon, j'écris. Je ne suis pas sur mon ordinateur, donc je ne serai pas dans mon lit. Si, je peux dire que j'écris dans mon lit, si, parce que je me lève parfois au milieu de la nuit. Mais au milieu de la nuit, j'ai une idée comme ça, j'ai envie d'écrire un truc. Du coup, je prends mon téléphone portable en général et j'écris un truc dessus. Et après, plus tard, je le développerai soit devant mon ordinateur, soit. Voilà. Mais ça, je peux écrire, oui, si, je peux écrire au lit comme ça. Mais ça dure. Ça peut durer une petite, ouais, une nuit de temps en temps, quoi, comme ça, où je me lève et puis je dis ok, il faut que j'écrive un truc. Je vais écrire comme ça.
Et l'espace lit, ça représente quoi pour toi?
Bah, un espace de repos. Un espace de repos principalement, vraiment. C'est un endroit où j'ai chaud. Parce que je suis frileux. Ouais, c'est. Ouais. Pas un endroit qui est sécuritaire, je pense que c'est pas le principe pour moi. Je vois, ouais.
N'est pas un endroit sécurisant.
Ouais, c'est plutôt ça que t'as raison.
Ça.
Pas particulièrement. Bah, ouais, non, parce que je suis l'aîné de ma famille, alors j'ai toujours été hyper attentif à tout pour essayer de faire attention. Donc le lit, pour moi, c'est le moment où je vais m'allonger, me détendre. Mais je reste toujours hyper à l'affût en fait. Comme ça. Ce qui fait que j'ai le sommeil extrêmement léger.
Tu fais beaucoup d'insomnie?
pas tant que ça, plus ces dernières années, mais pas tant que ça. Ça va. Non, ça va. J'essaie d'éviter. Du coup, je contrôle beaucoup les choses que je peux voir ou faire dans mon sommeil. Enfin, c'est-à-dire la lumière par exemple, j'essaie de faire gaffe, le son aussi, j'essaie de faire gaffe. Qu'il n'y ait pas trop de trucs. Mon téléphone portable, je le mettrai loin. Je coupe tous les trucs. Je lis avant de dormir pour me détendre un petit peu. Puis après, je m'endors. Non, sinon, j'essaye d'éviter. Mais j'en fais. J'en fais parfois. Bah, il suffit que je me lève en fait à 3 h du matin. Je ne peux plus m'endormir. C'est fini quoi. Autant que j'aille écrire ou quoi.
Quel est l'endroit où tu te sens le plus en sécurité?
Quel est-il? quel est-il cet endroit? Je crois que c'est pas un endroit, c'est lié à des gens, je crois. C'est quand je suis entouré de mes amis. Quand je suis entouré de gens qui ont les mêmes codes que moi ou qui comprennent mes codes. Du coup, là, je suis serein. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que... Ou alors, si, il y a un endroit pour moi, c'est les hauteurs. Je me sens en sécurité dans les hauteurs quand je suis seul. C'est hyper primaire, ouais, c'est hyper animal quoi, mais c'est très.
Donc on parle de montagne,
Ouais,
pratique
montagne.
d'escalade.
Ouais, j'ai fait de l'escalade longtemps, du parcours aussi, donc n'importe quoi qui me mette loin, au-dessus quoi.
Parachute aussi.
Ça, j'ai pas fait malheureusement, mais j'aimerais bien un jour. Je pense que c'est pas le même système. Parce que je suis pas ancré, je suis en descente. Donc je crois que ça me ferait pas le même effet, je suis pas sûr. Peut-être la chute libre me ferait plus le même effet, il paraît, parce que tu reposes sur l'air, donc il y a moins de. Mais moi, c'est plutôt, ouais, si je suis les pieds dans le vide au sommet d'un immeuble ou dans un arbre, là, je me sens bien. Je suis pas du tout inquiet.
Est-ce que tu pourrais dire, moi je me sens à l'aise partout?
Non, pas du tout. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Et je pense que tu dirais ça de moi et n'importe qui rigolerait si c'est quelqu'un qui me connaît tant soit peu, quoi. Dans les cafés, je m'assois souvent, si ce n'est toujours, et j'ai un toc par rapport à ça, à un endroit où je peux observer, c'est sûr, et dos à un mur. J'ai toujours un truc par rapport à ça, obligé. Sinon, je peux m'asseoir, si ce n'est pas le cas, je peux m'asseoir, mais alors il y a des paramètres qui rentrent en compte que je comprends a posteriori. Je m'assois et je me dis, ah, tiens, je suis à l'aise, ah, mais c'est parce qu'en fait, derrière, il y a une ligne de gens qui mènent à un mur ou je ne sais quoi, ou. Plein de choses comme ça qui peuvent, mais souvent, sinon, je change juste de place et je me mets du bon côté. Et les gens que je connais très bien le savent et donc me laissent systématiquement cette place-là. Ça, c'est un truc qui est assez un toc, quoi. C'est difficile pour moi d'être totalement détendu dans un espace que je connais pas. Ça, c'est éducationnel, je pense, quelque part, mais clairement, j'ai été éduqué comme ça, quoi.
Moi, par exemple, au cinéma, j'aime bien être proche de la sortie. Tu vois, je repère toujours dans les endroits un peu sombres où je vais être un peu claustrophobe, des fêtes ou des choses comme ça. Je veux identifier les sorties pour me sécuriser, quoi, mentalement.
Moi, ouais, je comprends.
Ça se rapproche un peu de ce que tu dis sur
Ouais.
Une autre question au hasard. Est-ce que tu regardes des films dans ton lit?
Non. Non, je regarde pas des films. Même pas pendant mes insomnies. Non. Non, je trouverais l'action bizarre d'ailleurs. Enfin, je la trouverais normale chez quelqu'un d'autre, mais chez moi, je trouverais ça bizarre. Je me sentirais mal à l'aise.
Ah bon?
Je sais pas, je me sentirais bizarre. Je sais pas, ouais, je m'endormirais peut-être.
C'est pas mal pour une insomnie. Ah, c'est déjà une question qu'on a faite, c'était sur l'amour. Alors, je pensais qu'il est juste en dessous. Est-ce que tu regardes du porno? Quel est ton rapport aux personnes racisées dans le porno?
Alors oui, et quel est mon rapport dans le je sais pas particulièrement de spécial, enfin vraiment pas du tout. C'est ni un truc que je cherche, ni un truc que je fuis, quoi.
C'est pas quelque chose qui suscite ta critique ou autre.
Non, vraiment pas. C'est même pas un
Cette
critère.
question te laisse indifférent.
Complètement. C'est vraiment, ça me passe au-dessus, largement, quoi. Je m'arrête pas à ça. C'est pas du coup ce qui me parle, ce que je cherche, ce que je guette.
Mais moi, ça m'étonne, donc je vais un peu m'arrêter là-dessus.
Bah oui, il n'y a pas de souci.
Je suis super étonnée que la question de la représentation des personnes racisées dans le porno ne t'interpelle pas. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi?
Mais c'est la question, c'est est-ce que ça m'interpelle politiquement? Alors là, je pourrais te dire oui. Par contre, si
Oui,
la question, c'est
mais
ça
c'est des
m'interpelle.
questions qui sont simples à saisir, dont il faut se saisir. En tout
Ouais.
cas, bon, chacune est invitée à se saisir comme il a envie. Tu vois,
Oui,
c'est juste volontairement simple.
c'est juste que la question par rapport, comme la première question c'était si je regarde, et la deuxième, si ça m'interpelle, alors d'un seul coup je vais faire un lien entre les deux pour moi, et c'est genre si dans le fait de regarder ça m'interpelle, mais moi pas, mais après la représentation de ces choses-là, comment elles sont faites, oui, ça peut m'interpeller en termes de réflexion, pas en termes d'activité pornographique, quoi, c'est ce que je veux dire, tu vois.
Ah oui, mais moi ça m'intéresse ce que tu pourrais développer là-dessus, quoi, en termes de réflexion.
Ah bah c'est hyper. Enfin, moi je suis toujours étonné de voir qu'il y ait des onglets comme ça hyper clairs sur les sites porno entre interracial. Enfin, t'as tellement de trucs, genre asiatique, noir, arabe. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent pas marqué arabe, plus marqué beurre, je crois, un truc comme ça, beurette ou quoi. Enfin, si ces figures-là m'intriguent, enfin, je me pose la question de comment elles ont pu à ce point-là s'ancrer. Et voilà,
Mais
mais.
est-ce que justement ces appellations, elles ont pu parfois brimer ta sexualité ou
est-ce que ça t'a fait réagir dans
Ah si,
la
oui.
pratique?
Oui, si. Enfin, ça, moi, ça me gêne toujours, ce genre de définition-là. Enfin, du coup, c'est pas le truc qui va m'attirer, quoi. C'est pas genre. Bah, ça me fait toujours un peu bizarre. Enfin, Beurette, c'est ma cousine. Je me dis, c'est pas. Enfin, elle est pas Beurette, elle est pas. Enfin, tu vois, ça me pose des questions à cet endroit-là, à la rigueur, mais.
As-tu déjà eu peur d'abîmer ta coiffure dans ton lit?
Ouais. Bah, c'est pas une coiffure, mais j'ai eu peur de me lever avec des cheveux n'importe comment, avec, dans tous les sens. Ouais, si, ouais.
Et c'est quoi le rapport que tu entretiens avec tes cheveux?
Il est compliqué. Compliqué, bah, ça, on en
Tu peux les
reviendrait.
définir un peu?
Bah, on en reviendrait à cette double identité, quoi. Je suis plus. J'ai une amie qui s'appelle Zenabou qui est à l'école. Et un jour, je suis arrivé avec une coupe de cheveux hyper coupée, proche, enfin un peu classique, très nette et tout ça et tout. Puis mes cheveux bouclent plus quand ils sont courts. Et du coup, elle m'a dit, bah, elle m'a dit, ah là, ok, d'accord, du coup, t'as ta coupe de Monsieur Nicolas, quoi. Et puis en fait, dès que ça pousse un peu, ça recommence à boucler. Mais là, j'ai plus la tête de Monsieur Nicolas. Donc la question, pendant un temps, a été de savoir quelle tête je voulais avoir. Donc souvent, pendant un très longtemps, quand j'allais au chef coiffeur, je demandais à ce qu'on les coupe jusqu'à ce qu'ils bouclent plus. C'était ma demande, quoi. Aujourd'hui, tu peux le constater, je m'en fous. Mais voilà, donc du coup, c'est mon rapport à ça. Ça a été de savoir quelle tête je pouvais avoir entre Jonathan et Monsef, quoi. Quelque part. Bon, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un juste milieu qui me convient très bien. Je peux les attacher si je veux, je peux les laisser attacher. Voilà. Pour moi, ça raconte pas la même histoire si je les attache ou si je les détache déjà, mais voilà.
En famille, tu les attaches ou tu les détaches?
En famille, je me fais charrier de tous les côtés. Donc, je suis obligé de les attacher. Paf, non, c'est pas vrai, je suis pas obligé, mais. Je les attache pas toujours, mais je vais me faire charrier, quoi qu'il arrive.
Et c'est quoi les remarques qu'on te fait?
Non, rien de grave, hein. C'est plus charrier, gentil, mais ils sont trop longs, quoi. Ils sont trop longs. J'ai souvent eu des soucis par rapport à ça parce que je les laissais tout le temps très longs. Enfin, j'avais toujours du mal à chez le coiffeur parce que j'ai peur du coiffeur. Et ça me terrifie totalement.
De la personne ou des outils employés par la
Non,
personne.
non, du fait de me faire couper les cheveux, je crois que ça concerne presque pas le coiffeur en vrai. Juste, moi, ça me stresse blindé de me faire couper les cheveux. Et dans ma famille, bah, tous les hommes ont plus ou moins la même coupe de cheveux. Et donc, moi, je rentre pas dans les canons, quoi. C'est la coupe de cheveux du petit Aixon. Des années 90 pour la plupart de mes oncles et mes cousins et donc moi aussi quoi en soi. Quand j'étais petit on passait à la chaîne chez mon oncle Abdel, hop, il nous prenait tous à la tondeuse, bam, on avait tous la même coupe et c'était réglé quoi, il n'y avait pas de discussion quoi, jusqu'à ce que je discute. Et donc du coup je suis toujours un peu charrié par rapport à ça quoi.
Désobéissance civile dans la famille.
Voilà, mais c'est pas méchant. En général, ils me demandent quand est-ce que je vais les couper. Après je suis l'excentrique, de toute façon je fais du théâtre, donc à partir de là, ça rentre dans un package. Qui tolèrent tout à fait, même qui soutiennent mille fois, mais ça les amuse de me charrier, ça c'est clair.
Merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Pour conclure, est-ce que tu voudrais savoir quelque chose me concernant?
À quel besoin répond ta recherche?
Oula, pluriel, pluriel.
Pluriel?
besoin vital. Un besoin vital, une nécessité d'offrir un espace aux personnes racisées, un espace visible dans l'espace public. La nécessité de faire entendre aussi des discours différents les uns des autres, montrer la singularité en fait de chacun j'ai cru, et d'initier un petit pas vers la reconnaissance de l'autre et vers sa dignité, vers la réparation collective en fait, des mémoires traumatiques. Ça, c'est un début de réponse.
Je te remercie.
La nécessité de créer du lien, surtout.
Je te remercie.
Merci à toi. Merci d'être venu.
Ah non, merci, hein, d'avoir invité.